Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin encore. On va rester dans le même thème, dans la même thématique que ce qu'on a pu explorer avec Mélodie et tous ensemble pendant le temps de louange, de rencontrer Jésus. Et dans la Bible, dans l'Évangile, il y a beaucoup de rencontres, Jésus qui a rencontré des personnes, qui les a croisées, qui a eu un dialogue avec elles et qui a changé leur vie. Et ces textes, je crois, sont inspirants parce que c'est pas juste des histoires passées de personnes qui ont été changées, mais je crois qu'il y a une portée universelle et qu'on nous montre des chemins que nous aussi, nous pouvons suivre pour nous aussi rencontrer Jésus et être transformés. Alors c'est un texte qui se trouve dans l'évangile de Marc, je vais le lire, vous pouvez l'écouter ou si vous souhaitez suivre dans vos bibles, vous pouvez le faire, c'est au chapitre 9 de l'évangile de Marc. Marc, donc, au chapitre 9, à partir du verset 14. Alors, juste pour situer, parce que ça commence direct, Jésus s'est éloigné avec trois de ses disciples sur une montagne, et là, il revient vers ses autres disciples. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule de gens et des scribes qui débattaient avec eux. Sitôt que la foule le vit, elle fut en émoi. On accourait pour le saluer. Il leur demanda « De quoi débattez-vous avec eux ?»« De la foule. » Quelqu'un lui répondit « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Où qu'il le saisisse, il le jette à terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit. Ils n'en ont pas été capables. » Il leur dit « Génération sans foi. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment, il tomba par terre et se roulait en écumant Jésus demanda au père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » ?»« Depuis son enfance, » répondit-il. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus, voyant accourir la foule, rabroie l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, c'est moi qui te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y entre plus. » Il sortit en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude le disait mort. Mais Jésus, le saisissant par la main, le releva, le réveilla. Et il se releva. Jusqu'ici, notre parole pour ce matin. Nous sommes face à un récit, je ne sais pas comment vous le trouvez, je ne le trouve pas facile. En fait, je le trouvais à peu près facile jusqu'à ce que je me penche dessus et que je me dis, non, en fait, il y a pas mal de difficultés dans ce texte. Et Il y a un truc qui est vraiment étonnant, c'est qu'on voit Jésus s'agacer avec cette parole un peu dure, génération sans foi. Jusqu'en serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Est-ce que Jésus perd patience? On imagine mal ça chez Jésus, hein. On sait que la patience est un fruit de l'esprit, que Jésus est plein de l'esprit. peut-être ce n'est pas de l'agacement, mais en tout cas, il y a un reproche qui est fait aux gens qui sont là, autour. Et là, il y a une autre question. À qui Jésus fait-il ce reproche? Il y a tellement de personnes autour. Est-ce que c'est au Père qu'il fait un reproche? Au Père et à tous ceux qui amènent des malades, comme ça, sans fin, toujours à demander et à la fois tellement limité. Est-ce que le reproche, c'est aux disciples qu'il l'adresse? Les disciples qui n'ont pas réussi à faire le miracle, qui n'ont pas réussi à délivrer cet enfant et qui obligent Jésus à s'y coller? Il leur a pourtant donné le pouvoir de le faire, il les envoyait deux par deux, il leur a donné autorité sur les esprits impurs et ils sont partis et ils les ont chassés. Et là, ils n'y arrivent pas. Est-ce qu'il y a un truc qu'ils n'ont pas compris, qu'il faut recommencer? Est-ce que c'est à la foule que Jésus dit cela? Le texte nous dit que la foule, elle est là en émoi, elle est surprise, effrayée, le terme est riche, difficile à traduire. Elle est là à parler, à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que Jésus fait ça? Elle est toujours là. Toujours là pour venir voir. Toujours là comme venue au spectacle pour voir le prochain miracle qui va se produire, pour voir si cette fois encore ça va marcher ou si, ah tiens, non, pas cette fois. Ou peut-être pour voir le défilé des malheureux, le défilé des malheurs, tous plus grands les uns que les autres, cette souffrance humaine pour laquelle on peut parfois être un peu voyeuriste, pour voir sans s'engager, cette foule prête à changer d'opinion, comme une girouette, un coup à le suivre, un coup à le quitter quand il dit une parole qui ne leur plaît pas, un coup prête à le faire roi, un coup prête à le tuer. Et c'est elle qui le condamnera. Ou peut-être ce reproche s'adresse-t-il aux scribes qui sont là. Je ne sais pas si vous les avez remarqués, ils sont mentionnés au tout début du récit, là, en discussion avec les disciples, quand Jésus revient. Si vous ne les avez pas remarqués, en tout cas, Jésus les a vus. Il était encore loin. Quand il a vu qu'il y avait cette discussion, ça devait débattre, devait y avoir des grands gestes, ça devait être animé. Sans doute, les scribes profitaient-ils de la situation. Les scribes, ils font partie de ces ennemis de Jésus, qui sont toujours là pour remettre en question ce qu'il fait, pour lui demander de quel droit il fait ça, de quelle autorité il fait ça. Ils ont même plutôt, dans l'évangile de Marc, insinuer que s'il chasse les démons, c'est parce qu'il est lui-même le prince des démons, le chef. Et moi, j'imagine facilement qu'aujourd'hui, où les disciples sont face à un échec, ils sont là à essayer de tirer des conclusions, à porter une ombre sur les capacités des disciples, ou d'une façon générale, sur le ministère de Jésus. Qui est-ce que Jésus adresse ce reproche d'être une génération sans foi? Et est-ce que ce ne serait pas un peu tout le monde à la fois? Ceux qui amènent des malades, les disciples, la foule, les scribes. Nous tous, devant une telle galerie de portraits, je pense que nous pouvons nous reconnaître. Moi, je suis plutôt comme ceci, plutôt comme cela. Un peu comme le Père, un peu comme les disciples, un peu comme la foule, voire comme le scribe. Nous tous, nous pouvons nous reconnaître dans cette foule qui doute alors que pourtant Jésus est là, il est venu, il apporte la guérison. Jésus, c'est celui dont il est écrit dans le prophète Ésaïe que c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Non, c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Voilà qui est Jésus. Celui qui vient et par lequel nous sommes guéris. Comment toute cette génération ne peut-elle pas reconnaître Jésus ? Jésus, celui qui guérit, justement. Parlons-en de la guérison, de ce miracle qui a lieu. Plusieurs commentateurs du texte font remarquer que ce qui arrive à ce jeune garçon, ça s'apparente à de l'épilepsie. Et que il ne devait pas être bien possédé, mais que ce devait être un épileptique, qu'il n'y a pas ici une délivrance, un exorcisme, mais une simple guérison. On peut se demander aussi pourquoi les disciples n'ont pas pu opérer ce miracle alors qu'ils avaient autorité, alors qu'ils reviennent de ce voyage missionnaire où ils ont pu faire tant de choses. Il y a plein de questions. Je pense quand même que si on regarde le texte, on voit la présence de l'Esprit, que ce n'est pas un simple épileptique qui se trouve là, un épileptique qui serait pris de crise justement quand il voit le Seigneur, ou dont la maladie lui donne des tendances suicidaires. Je ne crois pas que ça fasse partie des symptômes, à se jeter dans le feu, se jeter dans l'eau en tout cas. Et puis, quand on voit le miracle, il y a quand même quelque chose qui sort. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Que de mettre dans des cases. Et je pense que nous aurions tort si nous passions notre temps sur ce texte à nous poser ces questions et à essayer de répondre à ces questions. Guérison, maladie, épileptique ou pas, et puis les disciples, pourquoi n'ont-ils pas pu ? On retomberait peut-être dans le piège dans lequel sont la foule, les scribes, à vouloir rester extérieur. Moi, j'y vais pas. À vouloir évaluer l'action de Jésus, alors que ce qu'il attend, c'est la rencontre. C'est de nous rencontrer là où nous sommes. Et justement, une rencontre, il y en a une qui se produit. Au milieu de tout ça, il y a un homme. Il y a un père en souffrance, un père qui vit difficilement face au mal de son fils, qui le voit souffrir, qui le voit ronger, qui le voit mettre sa vie en danger. Pourquoi est-il là ? Pourquoi est-il là ce jour-là ? Dans son désespoir, je crois qu'il cherche une solution. Il n'est pas sûr que Jésus peut quelque chose, d'autant qu'il vient de voir les disciples et que ça n'a rien donné, mais dans l'état où il est, peu importe le doute ambiant, peu importe ce qu'on dit sur Jésus, au point où il en est, il est prêt à tout essayer. Quand il arrive, on ne peut pas dire qu'il fait preuve d'une grande foi. « Si tu peux, » dit-il à Jésus. Si tu peux quelque chose pour nous. Mais Jésus va l'amener à formuler sa foi. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'intéresse à lui. Il prend le temps de le rencontrer réellement. Il aurait pu chasser l'esprit direct. Vous avez vu, il s'est adressé à l'esprit, l'esprit part. Il aurait pu le faire, passer son chemin, passer à autre chose. Non. Il s'arrête pour parler avec le Père. Il interroge, depuis combien de temps est-il comme cela ? Depuis combien de temps est-ce que vous vivez ces difficultés ? Et le Père, qui se sent écouté, explique que c'est comme ça depuis qu'il est tout petit, explique que c'est lourd, explique qu'il voit son fils s'autodétruire, qu'il craint pour sa vie à se jeter comme ça dans le feu, dans l'eau. Je n'ai pas l'impression que toute cette conversation, elle soit utile pour ce qui se passe ensuite. Mais elle est là parce que Jésus rencontre cet homme, l'écoute, parce que Jésus fait preuve d'empathie parce que Jésus l'aime. S'il est venu sur terre, c'est parce qu'il nous aime. Et donc Jésus parle avec lui et ça a effet la formulation de sa demande. Une demande timide, prudente, pleine de doutes et en même temps poignante, avec une certaine urgence. Si tu peux. Mais à ce moment-là, Jésus l'invite à aller plus loin et à formaliser sa foi. Parce que venir et dire « peut-être tu peux quelque chose », ce n'est pas la foi. La question, ce n'est pas « est-ce que Jésus peut ?» Mais est-ce qu'il croit ? Est-ce que le Père croit ? Est-ce que tu crois ? Elle est là, la question. Et le Père comprend aussitôt. Il répond immédiatement, aussitôt, nous dit le texte. Comme s'il y avait une occasion à saisir, comme si cette occasion pouvait passer et qu'il fallait répondre tout de suite. Et tout de suite, il répond, je crois, oui, je crois que tu peux délivrer mon fils, je crois que tu peux quelque chose pour nous, je crois que tu peux quelque chose pour notre vie. Et en même temps, il sait combien sa foi est faible, il sait combien lui-même il doute, alors il complète, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Il a tout compris. Il a tout compris. Non seulement il a compris que Jésus peut délivrer, qu'on peut placer sa foi en lui, que Jésus est celui qui guérit, mais aussi il a compris que Jésus accompagne sur le chemin de la foi, que Jésus l'a fait grandir, que tout ne repose pas sur moi, mais que Jésus est là pour aider. Et je disais que ces rencontres de Jésus, elles nous servent aussi d'exemple, elles sont inspirantes pour nous. Et je crois qu'on a une invitation ici, quand nous avons besoin de mettre notre foi en Jésus. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venus ce matin, si c'est parce que vous croyez, parce que c'est une habitude, parce que vous recherchez Dieu, parce que vous voulez le servir. Ou si c'est par curiosité, comme son Père. Curiosité comme la foule, par besoin comme le Père. Mais cette invitation, elle est là pour tous. Pour sortir de la foule, pour être guéri. Guéri de ce fardeau que nous portons. Comme ce Père avec son enfant. Comme celui que vous portez et qui vous pèse, que vous connaissez. Comme cette vie qui nous use, cette vie parfois qui nous fuit, qui parfois dont nous sommes privés, privés par des puissances, privés par le péché qui nous coupe de Dieu. Ou peut-être nous avons besoin de la foi pour être vraiment des disciples. Pour répondre à l'appel de Dieu. Peut-être que nous sommes coincés comme les disciples, incapables de guérir, de répondre le bien comme nous nous y sommes appelés, pour délivrer ceux qui souffrent, pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Peut-être que nous sommes incapables de témoigner, d'enseigner, de baptiser, de faire des disciples. Si nous avons du mal à cet acte de foi, souvenons-nous de la façon dont procède ce Père. De dire à Jésus, non pas si tu peux faire quelque chose pour moi, si tu peux me transformer, mais de tenter un je crois. Tenter, je crois que tu peux me transformer. Je crois que tu peux faire le ménage dans ma vie, je crois que tu peux me faire sortir de cette situation. Je crois, oui, je prends le risque de croire. je prends le risque de m'abandonner. Je crois que Jésus est fils de Dieu. Je crois qu'il me délivre. Je crois qu'il me rend la vie. Et ensuite, de le laisser fortifier cette foi, cette petite foi, de faire grandir cette parole initiale, ce désir initial de lui faire confiance. Oui, nous avons un modèle. Nous n'avons pas besoin d'avoir une foi extraordinaire qui va nous faire avancer. Non, nous avons besoin de poser cet acte de foi. Et ensuite, Jésus est là pour la faire grandir et nous faire avancer. J'aimerais lever un doute, ne nous y trompons pas. Jésus, ce n'est pas un outil à tout faire, une solution magique qui vient régler nos problèmes pour peu qu'on ait la foi, un petit peu de foi. Jésus, c'est plus que cela. Souvenez-vous de la prophétie d'Ésaïe, celui qui guérit. Souvenez-vous des textes qui nous ont été lus pendant le temps de louange et qui parlent de Jésus. Jésus, c'est plus que cela. Jésus, c'est quelqu'un à qui s'abandonner, pas pour un coup, mais pour toute la vie. Et l'invitation nous concerne tous, que ce soit pour une première rencontre, comme ce père, ou que nous le connaissions depuis longtemps, comme les disciples qui sont en échec dans ce récit. L'invitation nous concerne tous, juste à nous abandonner à lui, à poser cet acte de foi, et lui se servira de notre foi, aussi petite soit-elle. Il peut la faire grandir, et surtout, il transforme nos vies.